Témoignage d'une infirmière sur les conditions de soins à Lyon dans les services Covid-19. Infirmière dans un grand hôpital lyonnais, j'apporte ici mon témoignage sur les conditions de soins effroyables dans les services dédiés au traitement des patients atteints du Covid-19. Lorsque l'on prend son service dans un service hospitalier qui traite les patients Covid-19, voici le rappel qui nous est fait. La transmission du coronavirus est établie en deux catégories. Gouttelettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on respire, on diffuse les gouttelettes d'eau invisible qui porte le virus. D'où la mesure barrière de 1 mètre de distance. Contact. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un contact physique avec le patient et avec ce qu'il a touché. Dans un hôpital public, des services de soins continus ont été transformés en services de réanimation dite légère pour répondre à la pandémie. C'est dans ce cadre que j'interviens. Les conditions de soins, les moyens. Après quelques politesses, on m'explique les mesures d'isolement de ce service pour lutter contre le Covid-19 et se protéger. Niveau matériel, le nerf de notre guerre. Nous disposons de deux masques FFP2 par jour et une charlotte pour la journée. De préférence, mais si on abuse, il y en aura plus. Nos journées durent 12 heures. Je comprends donc rapidement qu'à partir du moment où je mets un FFP2 sur le visage et je ne devrais l'enlever que 6 heures après, les recommandations stipulent qu'au bout de 4 heures, l'efficacité du masque n'est pas plus garantie. On ne va pas se plaindre, déjà on en a un. Ou pleurnicher, comme le dit dans un élan de mépris et de sexisme un célèbre animateur télé payé 100 000 euros par mois. Pour la charlotte, la conclusion est: tu mangeras avec ta charlotte sur la tête, tu iras avec ta charlotte aux toilettes, etc., etc. Puis on passe aux autres équipements. Une paire de lunettes pour ma venue, pour ma vue. On me conseille de la mettre dans mes affaires pour la retrouver pour le lendemain. Denrées rares également. La surblouse à manches longues pour protéger les bras et notre tenue. Une pour 12 heures, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre dans les chambres des patients, oui, parce qu'on en a plusieurs, je devrais remettre la même blouse. Les protocoles médicaux habituels nous ordonnent de changer de surblouse à chaque patient. Concrètement, je fais la toilette du patient 1. Je garde la même blouse pour le patient 2. Donc à l'intérieur du service, si ma surblouse est souillée par un patient, elle fait le tour des autres. On nous demande de les mettre de côté pour que l'hôpital les lave et les stérilise. Usage unique? Les tabliers en papier jetable également, qui protègent en cas de soins mouillants et qui protègent le patient de ce qu'on amène des autres chambres. Le premier jour, on m'a demandé d'en mettre un nouveau par-dessus la surblouse pour que chaque patient ait à chaque passage. Puis la consigne a changé. Un patient par jour, à mettre de côté, à remettre à chaque fois dans la chambre. Qui nous donne ces consignes? Les responsables des services d'hygiène de l'hôpital qui, en fonction des stocks, nous donnent la bonne conduite à tenir. Ils sont normalement garants de notre sécurité et de celle des patients. J'allais oublier les gants. Normalement, pour tout patient Covid ou pas Covid, les consignes sont claires. Tout soin où il y a contact avec le patient nécessaire nécessite des gants ou toute exposition à des liquides biologiques. Et là, nouvelle remarque. Les gants commencent à manquer. Donc il sera possible et concevable que lorsque nous faisons les toilettes des patients, il n'y a plus de nécessité de mettre des gants. Nous procéderons donc aux soins d'hygiène corporelle à main nue dans les jours à venir si les stocks n'arrivent pas. C'est bien l'infirmière diplômée d'État hygiéniste qui nous tient ce discours. L'infirmière contaminante. La journée continue, je commence à me sentir sale. J'ai l'impression de diffuser du Covid-19 partout, ce qui est le cas, car comme ils sont tous infectés, on ne doit pas s'en faire. Cependant, on nous demande de désinfecter toutes les surfaces toutes les 3 heures. Poignée de porte, ordinateur, téléphone. Ma surblouse a été à plusieurs reprises empruntée par les médecins qui n'osent pas en prendre une neuve, de peur de vider un peu plus les stocks. Mes tabliers disparaissent puis reviennent car les autres soignants les utilisent aussi. Et là, ma collègue me dit qu'il ne faut pas s'en faire, nos masques n'ont que 20 ans de péremption. Eh oui, ils sont périmés depuis 2001. Ambiance. Je vous laisse imaginer la tension qui règne dans ce service, qui est transformé, unité de soins continus en unité de réanimation, avec du personnel qui n'est jamais là d'habitude. Les infirmiers anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire sont présents ainsi que des intérimaires. Les soignants n'ont pas accès à des plannings clairs et se retrouvent confrontés à de multiples difficultés d'organisation, ce qui génère beaucoup de tensions. Les bouteilles de solution hydroalcoolique sont sous-clés. Elles sont gérées par le médecin de garde, qui lui n'est même pas au courant de sa mission. Nous perdons du temps afin de savoir comment s'en procurer. Des mesures avaient été mises en place pour limiter la transmission gouttelette des patients pour protéger les soignants. Aérosol interdit, nébulisation de médicaments, ce qui propage des gouttelettes partout dans la chambre, oxygénothérapie à très haut débit interdite. Plus on monte le débit dans le nez des patients, comme pour les aérosols, plus les gouttelettes se propagent dans la pièce. Cependant, afin d'optimiser la guérison de nos patients, nous ne pouvons pas éthiquement respecter ces consignes. Parlons de nos patients. Ils n'ont pas le droit aux visites. Nous devons appeler les familles, enfin juste la personne référente, deux fois par jour pour qu'ils ne nous appellent pas toute la journée à des moments inopportuns. Les patients, s'ils n'ont pas de téléphone portable ou pas de chargeur, sont isolés, seuls, n'ont aucun contact avec leur famille, à part quelques messages que nous faisons passer. Ils sont seuls, angoissés. Chaque jour, se demandent pourquoi leur état ne s'améliore pas car la durée d'hospitalisation est de plusieurs semaines. Nous sommes face à des situations exceptionnelles que nous n'avons jamais rencontrées. Certains patients hospitalisés pour Covid ont leurs proches bien souvent hospitalisés. Ces proches parfois décèdent. Nous devons donc également accompagner ces patients endeuillés seuls sans leur famille. Conclusion. Les soignants sont donc sacrifiés, mais ça on le savait surtout. On se sent trahis, oubliés. En nous ment tous les jours sur les bonnes pratiques, les recommandations des stocks qui vont arriver et qui ne sont jamais là. Nous nous sentons impuissants. En discutant avec les collègues, certains racontent qu'ils n'osent plus s'approcher de leurs conjoints, car ils sont à risque. D'autres n'embrassent plus leurs enfants, car tous ont la même conclusion. Compte tenu de nos mesures de protection, il est impossible d'échapper au Covid. On espère tous l'avoir déjà eu, mais l'angoisse est palpable. À la moindre courbature, au moindre petit tout sautement, on en rigole, mais on espère tous ne pas avoir le Covid. Être sale. Être sale, c'est vraiment le terme qu'on emploie pour dire qu'on est contaminé. Il existe des réanimations propres, sans Covid, et les sales, réservées aux patients Covid, c'est drôle cette appellation quand j'y pense, donc nous, on est les sales. Les patients, on peut les appeler les oubliés. Ils sont seuls avec nous. En effet, les psychologues et les psychiatres se déplacent très peu, surtout dans les unités Covid. Ils ont peur, sont en souffrance. À chaque examen, on calcule le bénéfice-risque de déplacer pour infecter d'autres structures. On limite nos passages dans les chambres. On est habillé en cosmonaute à chaque fois qu'on les voit. Pour ce qui concerne les familles, là aussi, c'est la grosse détresse. À chaque fois qu'on les appelle, ils s'arrêtent de respirer tellement la peur de la mauvaise nouvelle est présente. On m'a raconté une anecdote effrayante. Un membre de l'équipe soignante a appelé le frère d'un patient et a eu la maladresse de lui demander s'il était en voiture. Il croyait entendre le moteur, en fait. Il lui a demandé s'il voulait qu'il le rappelle dans un moment pour qu'il ne se mette pas en danger. Sa réponse fut « Vous allez m'annoncer qu'il est mort ?» Alors que son frère allait pour le mieux. Nous devons prendre toutes les précautions sur les conditions dans lesquelles se trouvent les familles lorsque nous les contactons. Dans certains hôpitaux, les psychologues s'engagent à faire des entretiens téléphoniques aux familles quand on leur signale une détresse. Ils font la même chose pour les soignants, mais ce n'est pas partout. Alors même si les applaudissements sont la fausse bonne idée, ça fait quand même du bien, en sortant du boulot, le visage marqué par les masques, d'entendre ce moment d'euphorie pour soi. Alors continuez, et surtout, nous, on n'oubliera pas. Je remercie chaleureusement notre direction qui, pour nous témoigner sa reconnaissance et son souhait de nous protéger, nous a envoyé sur nos boîtes mail un excellent tutoriel. Grâce à elle, je sais désormais fabriquer les surblouses avec les sacs poubelles.
Radio On est là, 107.7, téléphone 07 54 10 72 59. Maintenant, on va vous lire un petit résumé d'un article qui peut-être illustrer la façon dont le personnel soignant est traité dans les hôpitaux. Là, il s'agit de l'hôpital de la Timone à Marseille.
Attention, on a reçu les nouvelles blouses. Les Américains, ils n'en ont pas voulu sur le tarmac. Je la prends délicatement, on ne sait jamais ce qui va se passer, et hop, coucou, j'ai ma main qui est passée à travers. Ces propos sont tirés d'une vidéo qui connaît un fort succès depuis sa publication samedi sur les réseaux sociaux. Dans cette scène qui se déroule à l'hôpital de la Timone à Marseille, on aperçoit une équipe de soins composée de plusieurs infirmières qui ouvre un nouveau carton de blouses destiné au personnel soignant de l'APHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille. L'une d'elles filme la scène. Très vite, l'infirmière qui s'habille voit la blouse partir en lambeaux au fur et à mesure qu'elle enfile son matériel. « Voilà comment je vais rentrer dans une chambre Covid », s'inquiète la soignante.
Voilà, et il faut savoir qu'à la suite de cette vidéo qui a été virale, eh bien la direction de l'hôpital, au lieu de présenter en quelque sorte ses excuses et de se débrouiller pour trouver un matériel plus adapté, eh bien elle a mis la pression sur l'infirmière, accusant l'infirmière, etc., lui mettant une telle pression que l'infirmière a dit que cette vidéo n'avait pas été destinée à être vue par le grand public. Voilà, enfin.
Radio, on est là. On rappelle aussi que la radio, là, on diffuse pas mal d'informations d'un peu partout. Elle a aussi une vocation plus locale. Il y a des petites choses qu'on a initiées, comme d'essayer de récupérer des dessins. Ça commence à arriver pour l'EHPAD de Saint-Anthème. Il y a aussi la volonté de pouvoir, par exemple, mutualiser des courses, ce genre de choses. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un voisin, une voisine ou pour vous-même. Donc au 07 54 10 72 59 ou par mail également pour nous envoyer toutes sortes de choses. Radio on est là @riseup.net et on rappelle une dernière fois qu'il y a le blog où vous pouvez écouter toutes les émissions précédentes, tout ce qui nous a été envoyé, les textes qui ont été lus à la radio. Le blog c'est radioonestla.noblog.org. Et maintenant on va continuer l'après-midi avec un peu de musique.